De retour à notre émission ce midi, nous parlons évidemment de l'aide médicale à mourir. Cette aide médicale qui est offerte là depuis environ 2 ans, qu'en est-il dans notre région? Est-ce que des personnes malades ont demandé cette aide médicale à mourir? Toutes les exigences requises ou les critères pour obtenir cette aide médicale à mourir, le processus ou la démarche aussi à effectuer? Quels sont aussi les enjeux qui entourent cette aide médicale à mourir? Alors, pour parler de tout ça, nous recevons le Dr Claude Mercier, qui est le directeur au niveau des services professionnels au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie et des Îles. Bonjour.
Bonjour.
Parlons donc de cette aide médicale à mourir. Comment ça a été amené aujourd'hui dans notre société québécoise et évidemment les différents enjeux qui entourent tout ça?
Bien, l'aide médicale à mourir, c'est un type de soin qui a été autorisé au Québec à partir de décembre 2015, suite à une loi adoptée par l'Assemblée nationale. C'est un type de soin qui est quand même réservé à une clientèle qu'on peut dire en fin de vie. Mais l'aide médicale à mourir, ça consiste à administrer certains médicaments qui vont amener la personne à mourir d'une façon confortable, dans un environnement adéquat et calme et paisible. Okay. Ce type de soins-là est administré suite à une demande d'une personne et doit rencontrer 6 critères pour pouvoir être appliqué. C'est un type de soin qui ne peut pas être offert à un patient. Le patient doit en faire la demande de lui-même. Pour que le service soit admissible, le soin soit admissible, bien d'abord, la personne doit être assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie, doit donc détenir une carte d'assurance maladie. Ce critère-là est fait pour prévenir que des gens viennent d'un peu partout sur la planète pour demander ce type de soins-là au Québec. Le deuxième critère, c'est d'être majeur et apte à consentir. Donc, quelqu'un qui serait semi-comateux, des choses comme ça, c'est impossible que la demande soit faite.
Il faut comprendre qu'est-ce qu'on demande, dans le fond. C'est un peu ça. Il faut avoir un certain état de...
Il faut d'abord savoir que le service existe, puis il faut comprendre ce qu'on demande. C'est effectivement ça. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on demande comme type de soins.
Vers où on s'en va avec ça. OK.
Exactement. Et l'autre, il faut être en fin de vie. Il faut également être atteint d'une maladie grave et incurable. Le critère suivant, c'est que la condition médicale doit se caractériser par un déclin avancé et irréversible des capacités. Puis le patient doit éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportantes et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que le patient juge tolérables. Donc ça, c'est les critères qui doivent être rencontrés. Dans le sens pour être admissible aux soins d'aide médicale à mourir.
Bon, quand on parle d'être atteint d'une maladie grave incurable, est-ce qu'on parle de toutes les maladies, donc vraiment c'est général, ou il y a certaines maladies qui ne feront pas partie de ce programme?
Non, il n'y a aucune maladie qui est exclue de ce type de soins-là. Ce qui est vraiment au centre du type de soins, c'est d'abord la demande du patient, c'est d'être en fin de vie, d'être majeur et apte à consentir, puis d'avoir une condition irréversible caractérisée par des souffrances physiques ou psychiques importantes et non contrôlées ou apaisées de façon adéquate. C'est apaisé de façon adéquate au sens de la personne qui les subit.
Mais comment on va déterminer justement qu'une personne est en fin de vie? C'est sûrement un des éléments, sinon l'élément majeur qui fait en sorte là, qu'un médecin va décider oui ou non si la personne peut obtenir cette aide médicale à mourir. Donc, c'est un enjeu important, là.
Tout d'abord, la notion de fin de vie peut être difficile à définir dans certaines situations cliniques. Si on prend quelqu'un qui souffre d'un cancer très avancé, avec de nombreuses métastases, je pense que le pronostic de fin de vie est relativement simple à établir en fonction de l'évolution dans les mois ou les années précédentes. Mais si on parle de certaines maladies dégénératives qui évoluent plus lentement, mais qui sont quand même très incapacitantes, qui peuvent être accompagnées de beaucoup de souffrances. Là, des fois, la notion de fin de vie ou le pronostic de fin de vie est plus difficile à déterminer. Le Collège des médecins donne qu'une espérance de fin de vie à l'intérieur de 12 mois pourrait être acceptable dans un contexte d'une telle demande, considérant que tous les autres facteurs sont évidemment rencontrés, principalement les souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportantes et non soulagées de façon adéquate au sens du patient. La plupart des cliniciens, quand même, qui ont eu à pratiquer ce type de soins, vont utiliser une espérance de vie inférieure à 6 mois, puis la majorité inférieure à 1 mois.
Donc, de dire...
C'est encore un critère, c'est encore une définition qui est à finaliser là, au niveau du provincial, le contexte ou le délai de fin de vie, qui n'est pas toujours simple à déterminer non plus.
Donc, ça peut varier d'une personne, d'un médecin à un autre, là, parce qu'il y a des médecins qui font cette évaluation-là. Est-ce qu'une personne est vraiment en fin de vie?
Le médecin a plusieurs niveaux où il doit évaluer. Il doit évaluer l'aptitude à consentir, parce que quelqu'un, des fois, peut avoir une certaine atteinte de ses facultés cognitives, mais demeurer apte à consentir. Il doit être atteint d'une maladie grave, ça c'est relativement simple, mais il doit aussi évaluer que les souffrances physiques ou psychiques, le niveau de ces souffrances-là doit être évalué. Et puis ça aussi, le médecin a un rôle à ce niveau-là. L'espérance de vie ou le délai entre le moment où la demande est faite puis le décès anticipé, ça peut être très difficile à évaluer dans certaines situations.
Ben parlons un peu par rapport à ça, justement, parce que quelqu'un qui fait une demande peut être apte au moment où il l'a fait. Si sa situation de maladie, en tout cas, ça se détériore à l'arrivée du traitement, est-ce que ça peut faire en sorte que cette demande-là peut être refusée?
Bien, au moment de l'administration du soin, la patiente doit toujours être apte. Donc, si entre le moment où la demande a été faite et où toutes les formalités sont complétées, la personne devient inapte pour diverses raisons, soit que sa maladie s'est détériorée, soit qu'il doit recevoir certains traitements qui vont amortir ses facultés intellectuelles, à ce moment-là, le traitement ne peut plus être administré. C'est la même chose un petit peu que pour une chirurgie majeure. Si la personne, le matin de la chirurgie, change d'idée et qu'elle décide qu'elle ne veut pas se faire opérer, la chirurgie est cancellée. Ce type de soins-là, on a le même principe.
On a parlé beaucoup des critères pour pouvoir être admissible si on veut obtenir cette aide médicale à mourir. Mais est-ce que c'est long comme démarche maintenant pour arriver là?
La démarche pour avoir accès aux soins d'aide médicale à mourir, normalement, le patient doit faire la demande lui-même à un professionnel de la santé. À ce moment-là, un formulaire est signé par la demande et contresigné par le professionnel qui reçoit la demande. Le formulaire est transmis au médecin traitant qui aura à décider s'il a une objection de conscience à ce type de soins-là dans cette situation-là ou s'il est apte à évaluer le soin en question pour le patient. Donc, si le médecin considère qu'il est apte, il va faire l'évaluation avec le patient, il va valider avec le patient si tous les critères sont là, si toutes les offres de soins possibles, adéquates, ont été faites avec le patient et les résultats, puis s'assurer que le patient comprend bien la demande qu'il fait. À la fin de son évaluation, le médecin conclut que le patient pourrait être admissible à l'aide médicale à mourir, un deuxième médecin doit faire une seconde évaluation pour confirmer que le patient rencontre bien tous les critères. Et si ces deux évaluations-là confirment que le patient répond à tous les critères, bien à ce moment-là, l'aide médicale à mourir peut être administrée. Donc, il peut se passer quelques jours entre la demande et l'administration du soin. Si le médecin a une objection de conscience et décide qu'il ne peut pas, normalement, le CIS doit faire des démarches pour trouver un médecin qui va répondre à la demande du patient.
Oui, parce qu'un médecin peut se sentir inconfortable d'aller dans ce processus, donc refuser.
Oui, la loi le prévoit, puis ça peut être une objection de conscience à deux niveaux. Ça peut être une objection de conscience globale, dire moi, je ne veux pas du tout offrir ce type de soins-là à ma clientèle. Puis ça peut être aussi une objection reliée à des fois des situations très difficiles. Si je prends par exemple un médecin de famille, il peut être très bien apte à évaluer un patient qui va souffrir d'un cancer en phase avancée, mais être inconfortable pour être capable d'évaluer adéquatement un patient qui demanderait de l'aide médicale à mourir dans le contexte d'une souffrance psychique insupportable, où là, ça demande une expertise probablement plus particulière, puis qui n'est pas un phénomène courant dans sa pratique. Donc ça peut être une objection de conscience par rapport à certaines situations cliniques ou à l'ensemble des situations cliniques. Puis ça, je pense qu'au fil des années, il va en avoir de moins en moins, parce qu'à mesure que le type de soins est mieux connu de la population et les gens voient les éléments positifs associés à ce type de soins-là, puis tout l'encadrement, toute la sécurité qu'il y a autour. Je pense que je m'attends à ce qu'on ait moins d'objections de conscience médicale au fil des années, mais c'est un type de soins qui est quand même très récent dans les services offerts au Québec, donc il est toujours en déploiement puis en développement.
Est-ce qu'en Gaspésie, on a beaucoup de personnes qui ont fait cette demande d'aide médicale à mourir et est-ce qu'il y en a qui se sont vus aussi refuser cette aide?
On a débuté, la loi est devenue en application en décembre 2015. Depuis cette période-là, on a eu 5 demandes officiellement. 3 ont été refusées car elles ne rencontraient pas les critères suite à l'évaluation. 2 ont complété le processus et ont reçu le soin d'aide médicale à mourir au moment du dernier rapport où on a reçu. Il y a souvent les rapports sont déposés. On reçoit une copie du rapport. La loi prévoit que le rapport est déposé soit au Collège des médecins, soit au Conseil des médecins dentistes de l'établissement, également à la commission là, sur les soins de fin de vie. Donc, nous, on le reçoit une fois que la démarche est complétée. Fait que s'il y a des cas qui viennent d'être traités, les données que je vous donne là n'en tiennent pas compte, là. Mais les situations qu'on a eues à vivre, on a eu 5 demandes. Il y a eu quelques autres demandes faites par les patients, mais lorsque le patient a reçu des explications sur les autres soins qu'il pouvait recevoir ou comment ça pouvait se passer, le patient a retiré sa demande.
Docteur Mercier, après tout ce que vous nous avez dit, pour certaines personnes qui nous écoutent, on va peut-être dire, ben écoutez, ça semble pas tellement accessible, cette aide médicale à mourir. Mais pour d'autres, c'est sûrement une bonne chose d'avoir autant de critères pour s'assurer là, que c'est bien ce que la personne veut. Parce qu'on s'entend, lorsqu'on enclenche le processus d'administration des médicaments là, pour cette aide médicale à mourir, eh bien, on ne peut plus revenir en arrière, là.
Comme c'est une intervention qui est irréversible, bien, le niveau de précaution avant d'administrer ce type de soins-là est très, très élevé. Puis je pense que c'est une bonne chose. Il y a certains enjeux qui demeurent parce qu'actuellement, la clientèle pédiatrique n'a pas accès à ces soins-là, alors que dans certains cas, ce serait une option qui pourrait être adéquate. Les gens qui souffrent de maladies cognitives, de démences avancées, même s'ils ont signifié dans le passé que c'est un type de soins qu'ils voudraient avoir, rendu un certain niveau d'évolution de leur maladie, bien, comme ils ne sont plus aptes à consentir, ils n'ont pas accès à ces soins-là. Donc, c'est des enjeux qui vont être à clarifier ou à mettre, disons que la loi aura peut-être besoin de certains ajustements au fil des prochaines années pour envisager ces problèmes-là. Moi, c'est une impression personnelle que je vais vous donner parce qu'on n'a pas assez de recul ni de situation clinique où cela a été vécu dans la région pour vous dire, donner une opinion très éclairée. Mais la conclusion que moi je tire après plus de 18 mois, c'est que ça va beaucoup mieux que je croyais que ça aurait été, là. Je pensais qu'on aurait eu beaucoup plus de difficultés. Les deux situations, à ma connaissance, ça s'est réalisé. Ça s'est fait dans un contexte serein où et la famille et le patient comprenaient bien ce qui se passait. Ça répondait à tous les critères. Ça a donné un contexte de fin de vie qui a été adéquat et acceptable pour la personne qui avait à le vivre. Puis quand une personne a épuisé, si on peut dire, sa vie, à un moment donné, la seule chose qui peut lui rester à gérer, des fois, c'est sa mort. Puis il y en a certains qui choisissent de le faire. Mais en conclusion, moi, je vous dirais que je pense que c'est un type de soin qui va se développer plus, qui va être mieux connu, mieux compris, et puis où les résultats vont répondre aux besoins du patient.
Dr. Claude Mercier, directeur du service professionnel au Centre intégré de santé et de services sociaux, merci pour cet entretien et ces détails justement sur l'aide médicale à mourir aujourd'hui. Merci.
Bien, parfait. Bonne journée.